C'est un nom nouveau, mais on est normalement en bonne logique dans la mouvance de ce qu'on appelle, alors là c'est un groupe connu, les Moudjahidines indiens. Ils sont passés à l'action depuis un an et demi à peu près, et qui ont eu, lors de la phase de construction du mouvement, des liens évidemment avec les ultra-radicaux pakistanais au Bangladesh. Tous ces réseaux tournent autour, pour une part, de la mouvance Al-Qaïda, mais ça ne veut pas dire que ce soit le quartier général d'Al-Qaïda, canal historique si j'ose dire, qui télécommande. On est plutôt dans une mouvance où il peut y avoir, entre militants qui se font former à l'action, des liens transfrontaliers, mais pour l'essentiel, il s'agit bien d'un groupe indien. Et dans ce groupe indien, on a à la fois une logique qui s'inscrit dans ce qu'a été l'histoire indienne et les relations difficiles de la communauté musulmane avec la majorité après les massacres de musulmans dans l'état du Gujarat en 2002. Et il n'est pas tout à fait étonnant que des groupes décidés à passer à l'action soient montés en puissance après cela. D'une certaine façon, il est même plus étonnant qu'ils ne soient pas apparus plus tôt.
Mais alors quel est l'intérêt aujourd'hui de ces groupes à déstabiliser le gouvernement en tuant des étrangers en plein Bombay ?
Le message, c'est à la fois une dénonciation de l'ordre tel qu'il existe dans le pays, et là ça renvoie aux attaques contre les musulmans qui ont eu lieu autrefois. Mais dans le message qui passe, il y a aussi un message qui s'intègre en quelque sorte à la mouvance dont on peut dire Al-Qaïda est l'espèce de point focal, parce que c'est Al-Qaïda qui a cristallisé le discours du choc des civilisations.
Ces derniers temps, on voit en Inde une montée, en tout cas au niveau des États, du nationalisme. Est-ce que là, ça peut entrer en jeu ?
Oui, ça entre en jeu, hein, à beaucoup d'égards. Parce que d'un côté, on sait très bien que le pogrom anti-musulman du Gujarat s'est passé avec la connivence du gouvernement du Gujarat, qui était un gouvernement nationaliste hindou, d'une part. D'autre part, on a vu à Bombay, il y a quelques mois, des nationalistes hindous radicaux qui ont commencé, c'est la première fois qu'on voit ça, des mouvements violents tirés un peu vers le terrorisme, si j'ose dire. Et en plus, on est dans un calendrier préélectoral. Les prochaines élections générales seront au printemps 2009. Il n'est pas impossible que les nationalistes hindous reviennent au pouvoir, ni même qu'ils profitent de ces attentats terroristes pour dire « on vous l'avait bien dit, vous avez été trop mou avec les terroristes ». Enfin, c'est la récupération politique habituelle dans ce genre de choses.
On parle beaucoup de terroristes indiens, mais le Premier ministre indien lui-même parle de personnes extérieures à son pays. Évidemment, les regards se tournent vers le Pakistan. Est-ce que ça peut envenimer les relations entre les deux frères ennemis ?
Ça va dépendre de la façon dont le discours va être conforté ou pas dans les heures ou dans les jours qui viennent. Le mot Pakistan n'a pas été employé, ce qui est d'ailleurs dans la ligne du gouvernement indien. Ça fait longtemps maintenant que, quand il y a des attentats en Inde, Delhi ne pointe plus automatiquement, en quelque sorte, le doigt vers Islamabad et vers les services pakistanais. Mais c'est vrai que le propos du Premier ministre, il va falloir le peser au trébuchet, alors même que les relations indo-pakistanaises, un, ne sont pas si mauvaises que ça, et que d'autre part, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Pakistan est lui-même victime du terrorisme islamiste, c'est-à-dire que les gens qui avaient été instrumentalisés par les militaires, ou par les civils d'ailleurs, contre l'Indo-Cachemire ou pour pousser les talibans en Afghanistan, se sont retournés contre le pouvoir d'État pakistanais. Donc d'une certaine façon, Indiens et Pakistanais ont un intérêt commun aujourd'hui à éradiquer le terrorisme.